encore une fois ouvrir votre Bible tout au début. Des fois, quand je fais une prédication, c'est la préparation, ça prend moins de temps parce que j'ai moins de livres à lire pour m'aider avec la préparation. Mais sur le livre de la Genèse, il y a énormément de livres et je ne vais pas dire la bêtise, j'ai fait la bêtise, mais j'en ai pas mal acheté quand j'étais en Irlande. Alors maintenant, j'ai beaucoup de livres à lire pour être sûr, en fait, de ne pas dire des bêtises. Moi, je peux avoir mes idées, mon interprétation, mais après, je lis pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Et avec tous les livres que j'ai, il y a beaucoup, beaucoup d'opinions, beaucoup, beaucoup de façons d'interpréter le livre de la Genèse. Tous les auteurs que j'ai lus se mettent cependant d'accord sur ce point. Même s'il y a des différences d'opinion, différences d'interprétation, ils sont tous d'accord sur ceci. Le premier livre de la Bible est le livre le plus important de toute la parole de Dieu. C'est eux qui ont dit ça. Et je pense que je suis d'accord. Le premier livre, le livre de la Genèse, est le livre le plus important de la Bible. Il est impossible de comprendre le reste de la Bible si on se trompe sur le livre de la Genèse. Un auteur a dit que ce livre est la clé qui ouvre le reste de la Bible. Et sans connaître et sans comprendre ce livre, nous n'arriverons jamais à comprendre le Dieu qui se révèle dedans. Nous ne comprendrons pas le monde dans lequel nous vivons si nous ne comprenons pas le livre de la Genèse. Nous ne comprendrons pas l'humanité, le but de notre existence que nous avons déjà vu. Pourquoi nous existons? Nous trouvons ces réponses dans ce livre. Genèse veut simplement dire origine. Et c'est dans ce livre d'origine que nous découvrons les origines de l'univers, de l'humanité, du péché, de la Trinité, du salut, de l'Église, des alliances de Dieu, du mariage, de la famille, du travail, de la culture, des langues, de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Jésus lui-même se trouve dans ce livre. Alors vous voyez avec cette liste pourquoi ce livre est si important. Tout ce qui est central à notre compréhension de Dieu se trouve dans ce livre. Tout ce qui est central à notre compréhension de nous-mêmes, du salut de notre existence, se trouve dans ce livre. Et nous ne pourrons pas comprendre le Nouveau Testament non plus si nous ne comprenons pas la Genèse. Ce livre est cité 135 fois dans le Nouveau Testament. Il y a des centaines d'allusions dans l'ensemble de la Bible. C'est un livre central dans la Bible. Et on dit de nos jours que le livre de la Genèse n'est qu'une collection de mythes et de fables. Mais cette idée ne se trouve nulle part dans la Bible. Il n'y a pas un seul auteur de la Bible qui voit le livre de la Genèse comme un mythe. Et Jésus lui-même voyait ce livre comme des faits historiques. Donc, ce livre a une importance énorme dans notre vie. Et c'est une bonne chose de passer du temps ensemble à le lire, à l'étudier ensemble. Et c'est ce que nous allons faire dans les semaines et les mois qui viennent. Mais dans le temps qui nous reste aujourd'hui, je veux simplement, avant d'examiner le récit de la création, je veux simplement examiner les premiers mots, les quatre premiers mots de ce livre. Nous appelons souvent la Bible la parole de Dieu. Nous disons la Bible est la parole de Dieu. Dieu parle à l'humanité. Dieu décide de donner un livre à l'humanité. Pourquoi? Pour que nous puissions le connaître. Pour que nous puissions garder cette parole, la préserver et l'étudier. Et aujourd'hui, nous allons examiner les quatre premiers mots que Dieu a décidé de donner à l'humanité. Et on attache beaucoup d'importance aux premiers mots des gens. les parents se souviennent des premiers mots, des premières paroles de leurs enfants. Vous imaginez, il y a une élection, aussi, une élection présidentielle, et le nouveau président vient de se faire élire, et puis il adresse le public. Il s'adresse, il se tient debout devant le micro, il tousse un petit peu, il tape pour être sûr que tout le monde écoute. Et puis il commence à parler, et on écoute attentivement les premières paroles du président. Et dans ce premier verset du livre de la Genèse, nous nous trouvons devant le trône de Dieu. Et on pourrait dire que toute l'humanité est là. Et Dieu se lève devant le micro. Et Dieu va parler. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? L'humanité entière retient son souffle. Dieu est en train de nous adresser la parole. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 1. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Voilà les quatre premiers mots que Dieu décide de donner à l'humanité. Pourquoi il commence comme ça? Je veux, dans ces mots, voir trois choses. D'abord, la réalité de Dieu. Dans ces mots, nous avons un aperçu du commencement de l'histoire du temps et de l'univers. Nous entrevoyons quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu. Le début de notre univers. Nous voyons ce qu'il y avait avant la création de l'univers. Quand il n'y avait pas de terre, pas de système solaire, pas d'univers, pas d'atomes, pas de matière, pas d'espace, pas de temps, qu'est-ce qui existait? Qui est-ce qui existait? Trois mots nous donnent la réponse. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et ces trois mots parlent d'un temps avant la création du temps. Et aucun homme scientifique n'était présent. Aucun scientifique ne peut en parler avec autorité. Dans le livre qu'il nous donne, Dieu nous dit que lui, il est la grande réalité de l'univers. Tout de suite, au début de sa révélation, nous nous trouvons en la présence de ce Dieu. Dieu ne nous donne pas d'argument pour son existence, pour prouver qu'il existe. Il dit simplement, au commencement, Dieu. Il n'y a pas de preuve. Dieu est la grande réalité. Dieu était là avant la création de l'univers. Et nous vivons dans un monde où on recherche la réalité. Ben la voilà. Et c'est Dieu lui-même. Il est la grande réalité. On vit dans un monde où l'on cherche des réponses aux grandes questions de notre existence. Pourquoi on est là? Quel est le but de notre existence? Où trouver le sens dans la vie? Et des philosophes ont passé des années et des années à essayer de donner des réponses à ces questions. Mon ancien prof de théologie, il aimait bien décrire les efforts des philosophes. Il disait ceci. Ce sont des aveugles dans une pièce obscure qui cherchent un chat noir qui n'est pas là. Ce sont des aveugles dans une pièce obscure qui cherchent un chat noir qui n'est pas là. Ce sont des gens qui cherchent une réalité en dehors de Dieu. Ils cherchent des réponses, mais ils ignorent la grande réalité de l'univers. Au commencement, Dieu. Et ces mots nous donnent le « là » pour le reste de la Bible. Nous voyons tout de suite que la Bible est d'abord et avant tout un livre au sujet de Dieu. Le but de ce livre, c'est de faire connaître Dieu, de révéler la personne et le caractère de Dieu. Certes, nous apprenons beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, mais Dieu est la réalité derrière tout ça. Dans le psaume 14, nous le connaissons, nous lisons « L'insensé L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Pourquoi appeler quelqu'un qui nie l'existence de Dieu un insensé? C'est parce qu'une telle personne nie la plus grande réalité de l'univers. Elle nie la réalité du Dieu qui l'a créé, qui soutient sa vie. J'ai entendu dire que nier l'existence de Dieu, c'est comme un poisson qui nie l'existence de l'eau. Ben, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poisson. Ben, s'il y a un poisson sur une assiette dans un restaurant, mais le poisson n'existe pas s'il n'y a pas d'eau. Et nous n'existons pas s'il n'y a pas de Dieu. Donc Dieu est la grande réalité de l'univers. Et nous allons revenir tout à l'heure pour voir quelle doit être notre réponse à cette réalité. Mais voyons en deuxième lieu la révélation de la nature de Dieu. La révélation de la nature de Dieu. C'est vrai que ces premiers mots et les premiers versets de la Bible montrent pour nous la grande réalité qui est Dieu. Mais nous voyons également une merveilleuse révélation de sa personne et du caractère de Dieu, même dans ces quelques petits mots. Toute la Bible est une révélation de Dieu. Elle a été écrite pour que nous puissions le connaître. Mais quand nous ouvrons notre Bible, c'est pour mieux connaître Dieu, mieux comprendre Dieu. Et le danger pour nous, le danger pour beaucoup de personnes, si vous demandez à 100 personnes comment est Dieu, vous aurez 100 réponses différentes. Et nous ne sommes que des petites créatures faibles et pécheresses. Donc nous sommes incapables de vraiment connaître la nature et le caractère de Dieu si Dieu lui-même ne se révèle pas. Nous pouvons imaginer ceci et imaginer cela, mais pour vraiment connaître comment Dieu il est, il faut que Dieu lui-même se révèle. Et nous allons découvrir beaucoup de choses au sujet de Dieu dans les semaines qui viennent. Et pour ce matin, je veux simplement noter 4 aspects de la nature, le caractère de Dieu que nous voyons ici. Et n'oubliez pas, et c'est toujours important de noter ça, n'oubliez pas pourquoi ce livre a été écrit. Pour qui ce livre a été écrit? Ça a été écrit pour le peuple de Dieu, Israël. Et eux, ils étaient entourés des nations qui demandaient souvent « Où est ton Dieu ? Où est ton... On ne voit pas ton Dieu. Voilà nos dieux, on peut les voir, on peut les adorer, on peut les toucher. Mais votre Dieu, il est où ?» Alors, ils avaient besoin d'être réconfortés, fortifiés, tout en mieux connaissant le caractère de Dieu. Le problème pour Israël, c'est qu'ils ne pouvaient pas voir leur Dieu. Alors, il fallait bien comprendre comment il était. Dieu, donc, il veut montrer que lui, leur Dieu, il est le vrai Dieu infiniment supérieur au faux Dieu. Alors, voyons d'abord dans ces petits mots l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu. Nous avons déjà chanté dans le psaume 90. Avant que soient nées les montagnes, que tu n'aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 36, « Nul ne peut calculer le nombre de ses ans. » L'éternité de Dieu veut simplement dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Jean 1, versets 1 et 2, des versets qui parlent de Dieu le Fils, de Jésus. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle a toujours été. » Jésus lui-même, en priant son Père, il dit dans Jean 17, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Avant que le monde soit, Jésus était déjà là, avec son Père. Là, nous voyons déjà que la Trinité existe éternellement. Un Dieu en trois personnes. Le Fils était avec le Père. Dans le deuxième verset de Genèse, nous allons voir dans les semaines qui viennent, nous voyons l'Esprit de Dieu. Nous disons que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voilà, en quelques versets, la Trinité. Mes amis, le Dieu que nous adorons et que nous servons est un Dieu qui a toujours existé et qui existera éternellement. Il est celui qui a dit « Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. » Nous avons vraiment du mal à saisir ces vérités. J'ai passé beaucoup de temps cette semaine à lutter avec ces idées, à essayer de comprendre ces idées, comprendre l'éternité de Dieu. Nous vivons dans le temps et dans l'espace. Alors, nous ne pouvons jamais comprendre un Dieu qui est infini, éternel, indépendant de tout ce qu'il a créé. C'est comme un petit bébé dans le ventre de sa maman. Lui ne peut pas saisir la réalité de l'existence de sa maman. Son monde et son existence sont limités au ventre de sa maman. Donc forcément, il lui est impossible de comprendre l'existence de sa maman. Pourtant, elle est la grande réalité de la vie du bébé. Sans elle, lui, il n'existerait pas. Il est complètement dépendant d'elle, comme nous le sommes de Dieu. Bon, nous allons un peu plus loin dans ce passage et nous notons ensuite un Dieu personnel. Dieu n'est pas simplement une force impersonnelle qui crée l'univers. Nous disons, au commencement, Dieu créa, il fait des choses. Vous savez que beaucoup de gens, ils sont prêts à croire en une force quelconque, une force supérieure à eux, une force qui a peut-être créé l'univers, mais ce n'est pas une force qu'on peut connaître, selon eux. Certains voient Dieu comme un horloger qui remonte l'univers comme une horloge et puis qui se retire. Mais au début de la Bible, nous voyons le contraire. Dieu est un Dieu personnel, intimement engagé avec sa création, proche de sa création. Regardez le langage si on va un peu plus loin dans ce chapitre. D'abord, Dieu créa, Dieu dit, Dieu vit. Dieu appela, Dieu fit, Dieu plaça, Dieu bénit. Ce n'est pas un Dieu distant, ce n'est pas une force impersonnelle. Une force ne peut pas aimer. Une force ne peut pas faire grâce ou juger. Une force n'est pas compatissante. Mais le Dieu de la Genèse, chapitre 1, fait toutes ces choses. Et puis nous voyons que Dieu est un Dieu souverain. Il est intéressant de noter que le mot hébreu qui traduit ici « créa » n'est utilisé que pour parler de Dieu, de ce que Dieu fait. Et ce mot décrit exclusivement l'activité créatrice de Dieu. Dieu fait ce qui lui semble bon. Il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de conseils pour savoir comment créer. Il sait ce qu'il veut faire. Et il le fait. Il décide lui-même. Il n'a pas besoin de chercher notre point de vue. Et Dieu n'est pas limité en ce qu'il veut créer. Dieu ne dit pas, « Ah, si j'avais des moyens, je pourrais créer ceci. Mais enfin, je ne peux pas. Oh, je ne saurais pas créer cela. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. » Dieu crée ce qu'il veut créer. Il est souverain en toutes choses. Par sa parole puissante, Dieu a créé et soutient l'univers. Le psaume 148 dit « Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. » Il a commandé et ils ont été créés. Donc nous voyons la souveraineté, la puissance créatrice de Dieu. Le contexte de ce verset est clair, que l'univers que Dieu a créé n'a pas été créé de la matière préexistante. Quand les théologiens parlent de la création, ils parlent d'une création et ils se servent de deux mots latins, ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien. Création ex nihilo, à partir de rien. Je pourrais par exemple vous demander, de me faire un gâteau. J'aime bien les gâteaux au chocolat. Je pourrais vous demander de me faire un gâteau au chocolat avec les ingrédients que j'ai mis là sur la table. Et vous allez me dire, bah, Andrew, il n'y a pas d'ingrédients sur la table. Je dis, bah, tant pis, fais un gâteau quand même. Et vous allez me dire, mais il est impossible de faire un gâteau s'il n'y a pas d'ingrédients. Il est impossible de créer quelque chose s'il n'y a pas de matière préexistante. Pour nous, c'est impossible. Pour Dieu, ce n'est pas impossible. Et ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a fait au début. Il a créé ex nihilo. Le psaume 33, verset 6. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 33, verset 9. « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Et même si on acceptait qu'il y avait de la matière préexistante, qui avait créé cette matière? D'où est-elle venue? Dieu crée à partir de rien. Il est puissant et il est souverain. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ce que Dieu fait sur le plan matériel et physique, il crée la vie où il n'y a rien. Il fait également sur le plan spirituel. Il est toujours en train de le faire. Il donne la vie spirituelle à ceux et à celles qui sont morts dans leur péché. Il donne la vie spirituelle là où il n'y en a pas. Par l'œuvre de son esprit, comme dans la création, Dieu donne la vie à des cœurs où il n'y a rien. Il crée les désirs de l'aimer, de le suivre, de le servir dans les cœurs où ces désirs n'existent pas. Nous chantons, n'est-ce pas, « Où Dieu crée en moi un cœur pur ». Il crée ce qui n'existe pas. Et quand nous regardons l'univers dont nous faisons partie, nous voyons l'œuvre d'un Dieu puissant. Mais quand nous voyons des vies transformées, par l'Évangile, par le Saint-Esprit. Là aussi, nous voyons la puissance créatrice et salvatrice de Dieu. Si vous êtes chrétien ce matin, c'est grâce à la puissance de Dieu. Je pourrais parler d'autres aspects de la caractère de Dieu qui se voient dans ses paroles, dans ses mots, de sa gloire, de sa majesté, sa sagesse, son amour. Mais ce sont des choses que nous verrons encore dans des semaines à venir. Je veux simplement terminer ce matin en notant notre réponse à la réalité de Dieu. C'est bien de savoir toutes ces choses, mais c'est mieux de savoir quoi faire avec. Si tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de ramasser des connaissances, ça ne sert à rien si ça ne nous change pas. Si nous croyons que ces mots sont vrais, au commencement, Dieu créa, qu'est-ce que cela change pour nous? Comment ces mots devraient-ils nous changer et nous transformer? Si Dieu est vraiment la grande réalité de l'univers, et si tout dans l'univers existe grâce à lui et pour lui, Dieu doit être la grande réalité en tout ce que nous faisons. Tout, sans exception. Nous devons nous rendre compte que chaque instant de notre vie est vécu en la présence de Dieu, de ce Dieu. Dieu nous demande de tout faire pour sa gloire. Tout. Dieu nous demande de lui donner la première place en toutes choses. Toutes choses. Dieu veut tout. Notre première pensée en chaque circonstance de la vie doit être « Que veut Dieu ?» Notre première pensée doit être « Au commencement, Dieu. » Considérons quelques exemples. Quand nous nous levons le matin, même avant de regarder si on a des messages ou si on a quoi que ce soit sur notre portable, nous disons « qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Au commencement, Dieu m'a donné ces 24 heures pour vivre pour lui. Que veut-il que je fasse pour sa gloire? Dieu est là au commencement de la journée. Voilà pourquoi il est utile et important de commencer la journée en la présence de Dieu. En ouvrant notre Bible, en priant, on dit « au commencement, Dieu ». Avant de faire quoi que ce soit, au commencement, Dieu. C'est une façon de dire, au commencement de cette journée, Dieu va me parler. Dieu va se révéler. Dans notre travail, dans nos études, nous disons, au commencement, Dieu. Les paroles de Colossiens 3, verset 23, transforment notre façon de travailler. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, plaire à Dieu, glorifier Dieu, devient notre motivation en tout notre travail. Quand vous vous installez à votre bureau le matin, vous prenez votre place dans l'amphithéâtre, Dieu est là. Dieu est la grande réalité au bureau, dans le lieu de travail. Dans l'organisation de votre temps libre, la réalité de Dieu est le facteur déterminant. Comment Dieu veut-il que vous passiez votre temps libre? Est-ce que la priorité, c'est Dieu? Votre relation avec Dieu? Est-ce que votre façon de gérer votre temps libre montre clairement que Dieu est la grande réalité dans votre vie? Est-ce que votre façon de gérer votre temps montre que servir Dieu, approfondir votre relation avec Dieu est votre priorité dans la vie? Nous vivons dans un monde et surtout un pays qui nous dit qu'il faut exclure Dieu des décisions de tous les jours, de la vie de tous les jours. Notre monde est hostile à Dieu et dit, au commencement, moi. Au commencement, mes propres intérêts. Au commencement, ce qui m'arrange. Oubliez Dieu. Ne soyez pas influencé par Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes maître de votre propre vie. Mais Jésus dit, par contre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Au commencement, Dieu. Ces paroles de Genèse 1 sont un appel à une vie de disciple, une vie de sacrifice, une vie de consécration, soumission. C'est ce que je suis en train de décrire, une vie de louange et d'adoration. Et c'est la seule réponse qui est appropriée quand Dieu est la grande réalité de l'univers. Nous avons tendance à penser que notre louange et notre adoration, c'est quelque chose que nous faisons le dimanche matin au culte. Dans beaucoup d'églises, on dit, on va avoir un temps de louange. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons dans la vie, doit être un acte de louange. Et dans un pays laïque, où on nous demande de vivre notre foi en privé, et surtout pas dans le lieu public, nous disons, c'est impossible. C'est impossible. La réalité de Dieu pénètre dans chaque partie de notre vie. Tout ce que nous faisons est dirigé et gouverné par cette réalité. Quand je mange un repas, Dieu est la grande réalité. Je peux prendre plaisir dans un repas parce que Dieu me l'a donné. Dieu m'a donné la capacité de goûter, de savourer, d'apprécier. Dieu est la grande réalité quand je mange un steak. La Bible le dit. Que vous mangiez, que vous buviez, faites-le à la gloire de Dieu. Quand j'ouvre mon portefeuille pour dépenser mon argent, Dieu est la grande réalité. Quand je m'installe derrière le volant de la voiture, Dieu est la grande réalité. Quand j'allume l'ordinateur, Dieu est la grande réalité. Même chose quand je fais du sport, quand je parle à ma femme, quand je suis tenté par le péché, Dieu est la grande réalité. Je suis en la présence du Dieu qui est saint et juste. Il est la réalité. Et ça doit nous transformer aussi dans, comme une église. Quand nous nous réunissons pour notre culte, est-ce que la réalité de la personne et du caractère de Dieu, de la présence de Dieu, est-ce que ça nous saisit? Quand nous rentrons par la porte là, est-ce que cela remplit notre esprit, notre cœur? Au commencement, Dieu. Quand nous chantons, est-ce que nos pensées sont dominées par cette réalité? Est-ce que nous tremblons en la présence de Dieu? Est-ce que nous nous prosternons devant son trône? Quand nous prions, le Dieu que nous prions, il est comment? Sommes-nous captivés par la réalité de ce Dieu puissant, souverain, éternel, créateur, glorieux et bon? Est-ce que c'est le Dieu que nous prions? Est-ce que la réalité de sa nature change notre façon de prier? Et dans notre évangélisation, comment est notre Dieu? Je sais que moi, j'ai besoin d'une meilleure vision, une plus grande vision et compréhension de combien notre Dieu est grand et réel. J'ai besoin de ça. Peut-être que nous tous, nous avons besoin de ça. Dans ma vie de famille, dans ma vie de prière, ma vie de service, mon évangélisation, il faut que la réalité de la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, que ces réalités me transforment. Mais vous, comment est votre vision de Dieu? Il est grand, votre Dieu? Pour beaucoup de chrétiens, leur Dieu est trop petit. Il y a un excellent livre qui a été écrit là-dessus avec ce titre, « Votre Dieu est trop petit ». Et ça se voit dans notre façon de vivre. Votre Dieu est trop faible. Votre Dieu est trop petit. Dieu n'est pas un passe-temps. Dieu n'est pas une petite partie de la vie. Genèse 1:1 dit « Au commencement Dieu ». Au commencement Dieu. Est-ce que vous connaissez vraiment ce grand Dieu? Ou est-ce que vous connaissez plutôt un petit Dieu? Un Dieu que vous gardez dans votre poche et que vous sortez de temps en temps, le dimanche. Mais à part ça, ce Dieu, ça ne change pas grand-chose. Et si quelqu'un n'est pas encore chrétien, je dois vous dire que votre vie manque de réalité. Votre vie manque de réalité. Certes, vous faites beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de choses qui sont admirables et louables. Vous aimez votre famille, vous travaillez bien. Vous avez peut-être connu beaucoup de succès dans votre vie. Mais il y a un défaut fatal dans votre vie. Dieu est absent. Dieu est absent. Vous avez construit votre vie, mais pas sur la réalité du Dieu créateur. Vous ne donnez pas à Dieu la place qu'il mérite. Vous l'excluez de vos pensées, de vos décisions. Vous ne l'aimez pas, vous ne le servez pas, vous n'essayez pas de le glorifier. Et vous avez été créé pour ça. Vous niez la réalité de votre vie. Vous êtes comme ceux que Paul décrit dans Romains 1. Quand il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà, on sait que Dieu existe, qu'il est grand. Mais Paul continue. Ils sont donc inexcusables, ceux qui ne croient pas en Dieu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Sans excuse. C'est ça le péché fondamental. On ne reconnaît pas Dieu. On ne donne pas à Dieu la place qu'il mérite. On ne le glorifie pas. On nie la grande réalité de l'univers, le Dieu qui a créé. Ne soyez pas comme l'insensé du psaume 14. Mes amis, j'espère que Dieu est en train de vous parler. J'espère. J'espère qu'il est en train de vous convaincre de sa grandeur, de nous donner une vision de sa grandeur, peut-être pour la première fois. Et c'est ma prière que nos études dans ces chapitres clés de la Bible nous transforment, nous remplissent d'un sens de la gloire de Dieu et de sa puissance et de son amour. Nous allons voir combien nous avons offensé ce Dieu. Imaginez ça, la grande réalité de l'univers. Et nous lui avons craché dans sa figure. Nous avons offensé ce Dieu. Pourtant, il nous aime. Il nous fait grâce. Il est miséricordieux envers nous. Il a envoyé son Fils pour sauver les gens qui l'ont détesté. Ce grand Dieu de l'univers, c'est quand même incroyable qu'il nous a tant aimés. Nous qui étions rebelles, nous qui avions craché dessus. Nous allons voir tout ça. Mais en tout ce que nous voyons, notre désir devrait être que le grand nom de ce grand Dieu soit exalté, glorifié et béni. Nous voulons que le monde reconnaisse combien notre Dieu est grand. Et ça doit commencer en nous. Ça doit commencer en notre cœur. Votre cœur, votre vie. Que ce grand Dieu éternel, souverain, puissant et personnel, nous transforme, vous transforme par ses vérités. Pourquoi ? Pour la gloire de son nom. Amen.